l'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des Tiers-Mondes et de la solidarité internationale.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Lerche pour la CIMADE et le réseau Éducation sans frontières. Cette discussion se réalise en appel rediffusé. Je le dis pour que nos auditeurs nous excusent par avance de la qualité sonore. Nous allons aujourd'hui parler des campagnes nationales locales de ces deux associations dans un contexte malheureusement très complexe qu'est le confinement, à la fois pour l'activité des associations, mais aussi et surtout pour les bénéficiaires. Tout d'abord, une première date clé, c'est le 17 octobre, journée mondiale du refus de la misère et le lendemain de la journée mondiale de l'alimentation. La CIMADE et le réseau Éducation sans frontières soutiennent la marche nationale des sans-papiers, lancée le 19 septembre des quatre coins de la France, pour porter un message commun de justice sociale. Cette journée a été médiatisée et on peut notamment la retrouver sur le blog Mediapart, dont on donnera le nom en fin d'émission. Vous étiez à Paris, Thierry, ce jour-là. Pouvez-vous nous en dire plus sur les attentes et les retombées de cet événement ?
Alors, je n'étais pas à Paris. Par contre, j'ai participé au départ de cette marche sur Montpellier. Alors, cette marche a été décidée par tout un grand nombre d'associations, dans le cadre des États généraux des migrations. Et surtout, ça a été lancé par plein d'associations de migrants, notamment sur Paris. Hein, des migrants qui sont auto-organisés et qui ont décidé de lancer cette marche. Après, la marche qu'ils avaient déjà eue au mois de mai, des mobilisations qu'ils avaient déjà eues au mois de mai, très importantes, sur le problème des migrations. Donc cette marche, elle est partie dans plusieurs coins de la France. Elle est partie d'abord, de 19, le 20 septembre, de Montpellier, et en même temps de Marseille. Hein. Sur Montpellier, il y avait une dizaine de migrants qui étaient venus de Paris, plus une vingtaine, plus une cinq ou six migrants de Montpellier et une vingtaine de personnes qui ont accompagné la marche. Donc moi, j'ai participé à cette marche jusqu'à Avignon. Hein. Et on a marché plusieurs fois, des marches qui étaient 30 ou 35 kilomètres par jour, donc c'était assez important. Qui est très très dynamique, avec bien sûr les trois axes qui étaient les plus importants sur cette marche. Hein. C'était d'abord la régularisation de tous les sans-papiers, c'était la fermeture des centres de rétention. Les centres de rétention, c'est des semi-prisons, là où sont mis tous les migrants que le gouvernement veut ou la préfecture veut expulser. Hein. Donc ils sont enfermés dans les centres de rétention. En sachant que dans ces centres de rétention, comme en ce moment les frontières sont fermées, donc on peut expulser personne, donc on enferme inutilement des migrants dans ces centres de rétention qui peuvent rester jusqu'à 90 jours, privés de tout droit, avec des contacts très difficiles. Hein. D'ailleurs, il y a eu plusieurs grèves de la faim qui ont été entamées par les migrants qui étaient dans les centres de rétention, pour demander à ce qu'ils soient libérés. Et enfin, un droit au logement pour tous, pour toutes et pour tous. C'était les trois grandes revendications, avec une demande d'être reçue par le président Macron, mais demande qui n'a pas abouti, parce qu'il n'a pas voulu recevoir une délégation. Et en plus, malheureusement, cette marche sur Paris, qui était un vrai succès, puisqu'elle a réuni 60 000 personnes, ce qui est un réel succès. Et malheureusement, c'est tombé, bien sûr, le même jour que l'assassinat de ce professeur d'histoire. Et ça a été, bien sûr, donc du coup, pas du tout médiatisé, malheureusement. Comme on dit, ce n'est que partie remise, parce que on va pas s'arrêter là. Il y a une autre perspective qui est en route, c'est le 18 décembre, hein, Journal international des migrations, où sera prévu aussi de nouveau, en tout cas des manifestations locales ou parisiennes. Hein, rien n'est encore décidé.
D'accord.
En ce moment, donc il y a des réunions régulières qui se font. On est en train sur Montpellier aujourd'hui, entre malheureusement à cause du Covid, tout est bloqué. Mais les migrants de Montpellier avaient décidé de s'auto-organiser, de se mettre en collectif, comme ça s'est fait dans beaucoup d'endroits, sur Paris, Marseille et d'autres villes. Mais bon, pour l'instant, tout est bloqué. Et au niveau des états généraux d'immigration aussi, les réunions sont malheureusement bloquées. On fait un peu de réunions en visioconférence, mais c'est un peu difficile. Donc, on va préparer, en tout cas, sur Montpellier, le 18 décembre.
D'accord. Du coup, comme vous étiez en train de le dire, avec ce nouvel état de confinement annoncé jeudi 29 octobre par le président Emmanuel Macron, de nouvelles restrictions sont à prévoir, qui vont sans nul doute affecter le bon déroulement des activités associatives, autant du point de vue administratif que de plaidoyer, mais aussi de terrain. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la situation actuelle dans l'Hérault ?
Alors, sur les plaidoyers, c'est un gros problème, parce que effectivement, on ne peut plus assister au procès, que ce soit au tribunal administratif ou au tribunal correctionnel, ce qui fait que les procès se font sans aucun témoin. Hein, ce qui est contraire, bien sûr, à l'idée même de justice, où normalement, ça devrait être ouvert au public. Et donc, les avocats sont désespérés parce que plein de leurs requêtes sont rejetées de manière totalement inadmissible. Juste un exemple que je peux donner. Non, je donnerai tout à l'heure, puisqu'encore je parlerai des mineurs. Mais voilà, ça concerne les mineurs. Mais beaucoup de requêtes faites contre des obligations à quitter le territoire sont bafouées, disons, en tout cas traitées de manière inadmissible par les juges, en grande partie aussi parce qu'il n'y a pas de public. Donc ils font absolument ce qu'ils veulent sur ce terrain-là. Sinon, en ce qui concerne l'accueil, la CIMAD et RESF continuent à faire un accueil uniquement sur rendez-vous, par téléphone, et on fait un accueil en présentiel, mais très limité. On essaie de tout régler par téléphone, c'est-à-dire qu'on discute bien avec les migrants sur leur cas, on essaie de tout résoudre par téléphone, et quand on ne peut pas résoudre par téléphone, on continue à recevoir en présentiel, en sachant que la préfecture continue à fonctionner. Donc c'est normal que nous aussi, on puisse continuer à fonctionner et à accueillir des migrants.
Loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guissény. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand. Gaugu gatohi, gaugu kaniniya, ora funmani wafuye, ora gowe ni wagoka. Gaugu gatohi, gaugu kaniniya. Petit bout d'Afrique, perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude, réputation recouverte d'un linceul. Petit pays, pendant 3 mois, tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de vous haïr quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes, et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption. Je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné quand je partais en vrille. Seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuve. Petit pays, dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Et tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil d'un résidu d'étoiles filantes. Gaugu gatohi, gaugu kaniniya, ora funmani wafuye,
warago weni wagoka gaugu gatoi gaugu kaniniya.
Un soir d'amertume, entre le suicide et le meurtre, j'ai gribouillé ces quelques phrases de la pointe neutre de mon feutre. J'ai passé l'âge des pamphlets quand on s'en canaille, je connais que l'amour et la crainte que celui-ci s'en aille. J'ai rêvé trop longtemps de silence et d'aurore boréale, à force d'être trop sage, je me suis pendu avec mon auréole. J'ai gribouillé des textes pour m'expliquer mes peines, Bujumbura et ma luciole dans mon errance européenne. Je suis né il y a longtemps, un mois d'août, et depuis dans ma tête c'est tous les jours la saison des doutes. Je me navre et je cherche un havre de paix. Quand l'Afrique se transforme en cadavre, les époques, ça meurt comme les amours. J'ai plus de sommeil et je veille comme un zamou. Laissez-moi vivre, parole de misanthrope, citez-moi un seul de rêve qui soit allé jusqu'au bout du sien propre.
Gaugu gatoi, gaugu kaniniya, wara fungani wafuye, wara gogani wagoka. Gaugu gatoi, gaugu kaniniya.
Quand tu pleures, je pleure, quand tu ris, je ris. Quand tu meurs, je meurs, quand tu vis, je vis. Petit pays, je saigne de tes blessures. Petit pays, je t'aime, ça j'en suis sûr.
Le nombre de mineurs isolés et de demandeurs d'asile est en constante évolution et la capacité d'accueil des structures est malheureusement trop insuffisante. Le 115 est bien souvent saturé et beaucoup de gens dorment dans la rue. Quelles mesures ou propositions alternatives sont envisageables pour aider les associations qui travaillent avec les migrants pour pouvoir continuer leurs activités d'utilité publique ?
Alors malheureusement, sur le problème de l'hébergement, c'est une vraie catastrophe. Parce que hier encore, à la permanence, on a vu une famille demandeur d'asile avec un enfant de 3 ans. On a téléphoné au 115 et il n'y avait pas de place. Donc toute la famille avec l'enfant de 3 ans a dû dormir dehors, tout simplement. Donc il y a un défaut, alors que normalement on doit ouvrir, les consignes du gouvernement étaient d'ouvrir plein de places de façon à pouvoir héberger tout le monde. On continue à avoir un très grand nombre de personnes, et surtout tous les célibataires, mais même là, on le voit avec un enfant de 3 ans, qui continue à être à la rue. Donc ça, c'est totalement inadmissible. Il y a eu, d'autre part, plusieurs squats qui ont été expulsés sans qu'il n'y ait aucun diagnostic fait avant pour savoir si on pouvait reloger une partie des familles ou pas, ou des personnes. Donc là aussi, c'est en plein Covid, mettre encore des familles et des migrants qui sont en grande partie des demandeurs d'asile à la rue, alors que tous devraient être logés, c'est absolument inadmissible. Et dernière chose que dans cette situation aujourd'hui, en ce qui concerne les migrants, c'est tous les migrants qui veulent renouveler leur carte de séjour aujourd'hui sont quasiment dans l'impossibilité de prendre des rendez-vous. On a des dizaines de personnes qui sont en train de perdre leur emploi aujourd'hui uniquement parce que c'est impossible de prendre un rendez-vous pour renouveler sa carte de séjour. Et c'est bien pire encore quand c'est une première demande. Donc on a vraiment l'impression qu'aujourd'hui, on a un gouvernement qui pourrit la vie des migrants. Tout simplement parce qu'ils sont désespérés. Mais on a tous les jours des nombres de téléphones de migrants qui nous appellent sur notre téléphone pour dire « on n'arrive pas à prendre rendez-vous, je vais perdre mon travail », des jeunes qui vont perdre leur CFA, leur formation. Hein. Et ça, c'est tous les jours. Hein. Et ça, c'est absolument inadmissible. Hein. On ne peut pas se permettre de pourrir la vie de gens qui sont en situation régulière ici en France, qui ont un travail, et qui vont perdre ce travail uniquement parce qu'ils n'arrivent pas à prendre rendez-vous pour renouveler leur carte de séjour. Voilà. C'est absolument, on n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu une telle situation en France, depuis que je m'occupe des migrants, et ça fait, on pourrait dire, depuis 30 ans hein, qu'on voit ça, on n'a jamais vu une telle situation de désespérance, y compris pour les migrants qui sont en situation parfaitement régulière, et qui travaillent à cause de ce problème de rendez-vous.
Oui, comme vous le dites, c'est une situation inacceptable et catastrophique. Alors, quels sont nos moyens, le pouvoir citoyen et la légitimité des associations qui travaillent dans ce secteur pour contrebalancer peut-être cette situation très compliquée actuellement ?
Eh ben, pour l'instant, malheureusement, on ne peut pas manifester, donc déjà, on ne peut pas faire grand-chose de ce côté-là. Par contre, effectivement, on intervient en permanence auprès de la préfecture pour soit décrocher des rendez-vous, soit leur manifester, les protester. L'ensemble des associations sur Montpellier, hein, que ce soit la Ligue des droits de l'homme, la CIMAD, RESF, tous les états généraux migrants, l'association Migrants Bienvenus 34, parce qu'on est l'essentiel des états généraux des migrations, ont protesté par courrier auprès de la préfecture, ont demandé des rendez-vous, voilà, pour essayer d'expliquer, de trouver une solution, disons, à cette situation infernale, quoi. Mais pour l'instant, il n'y a pas de réponse, quoi. Malheureusement.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Enfin, pour clôturer notre émission, est-ce que vous pouvez fournir à nos auditeurs des dates et des lieux de rendez-vous en présentiel ou en virtuel pour pouvoir continuer à suivre l'actualité de RESF et de la CIMAD et pourquoi pas participer à des actions de bénévolat?
Alors, pour l'instant, il n'y a plus tellement de mobilisation, mais par contre, je peux vous donner des numéros de téléphone où les gens peuvent, en tout cas, les migrants peuvent appeler pour tous les problèmes qu'ils peuvent rencontrer, et éventuellement aussi des bénévoles pour dire qu'ils sont prêts à être bénévoles. Alors, je peux donner deux numéros. Plusieurs numéros. En ce qui concerne l'accueil juridique de la CIMAD, c'est le 06 33 63 99 97. Voilà, ça c'est pour l'accueil juridique de tous les migrants. Ensuite, un autre numéro pour les demandeurs d'asile, 06 45 59 17 33. Enfin, pour le réseau Éducation sans frontières, c'est-à-dire tous les mineurs, les jeunes majeurs, les familles qui ont les enfants scolarisés, c'est le 06 84 59 63 05. Enfin, si je peux dire quelques mots sur l'accueil des mineurs encore, je ne sais pas s'il y a encore le temps.
Bien sûr, oui, allez-y.
Voilà. Alors, sur Montpellier, il y a à peu près, les derniers chiffres qu'on peut avoir, 800 mineurs étrangers, ce qu'on appelle maintenant les MNA, les mineurs non accompagnés, qui sont pris en charge par le département. Le problème, c'est sur Montpellier, c'est qu'ils sont bien mis à l'abri, mais ils sont mis à l'abri dans des hôtels, souvent isolés, puisque il y en a à peu près 400 qui sont en situation d'attente, au moins, enfin, on ne sait pas les chiffres exacts, mais enfin entre 200 et 300 qui sont en situation d'attente, c'est-à-dire il y a un doute sur leur minorité, où on n'a pas encore évalué leur minorité, donc ils sont isolés tout seuls dans les hôtels, avec une personne qui vient les voir de temps en temps, une fois tous les 15 jours, et à partir du moment où il y a un doute sur leur minorité, le département va demander qu'il y ait une enquête de la police des frontières, la PAF, et cette enquête peut durer jusqu'à 2 ans. C'est-à-dire que pendant des mois et des mois, ces jeunes sont abandonnés seuls, ils n'ont aucun suivi médical, aucun suivi psychologique, alors que souvent ils ont traversé, ils sont issus d'avoir des situations dramatiques, ils ont traversé pour venir ici aussi des moments très très difficiles, aucun suivi scolaire, ils ne sont pas scolarisés, et la plupart de temps, d'autres de ces jeunes n'ont même pas de cours de français. Il y a une association qui a été mise en place, Coalia, qui suit à peu près 250 jeunes, donc eux, ils sont à peu près, disons, 250 jeunes, il y en a qui sont réellement pris en charge, qui vont à l'école, et d'autres qui sont en attente. Hein. Mais au moins avec Coalia, ils ont quand même des cours de français et tout ça, mais encore, il y en a plus d'une centaine qui n'ont rien, qui sont complètement abandonnés. Et ça, c'est totalement inadmissible, et depuis toujours, on a rencontré le procureur, on n'arrive pas à rencontrer le département, et on demande à ce que ces jeunes, en attente, même s'il y a un doute sur leur minorité, normalement le doute doit toujours prévaloir pour le jeune, en sa faveur. Donc tant qu'il y a un doute, ces jeunes devraient être scolarisés, puisqu'ils viennent ici pour aller à l'école. Hein. Enfin, le drame là-dedans, c'est que ces jeunes, quand on conteste leur minorité, et souvent on conteste leur minorité de manière stupide, c'est parce que quand ils sont passés en Italie ou en Espagne, la police souvent de ces pays-là, elle les rend majeurs pour s'en débarrasser tout simplement. Donc elle donne une fausse date de naissance pour les rendre majeurs, où c'est eux quelquefois qui veulent pas rester là-bas et donc qui se déclarent majeurs en Espagne ou en Italie. Et arrivés en France, ils font venir leurs papiers, donc c'est leur vrai papier, qui prouvent qu'ils sont mineurs, mais on retient toujours le fait que la police italienne ou espagnole les a déclarés majeurs pour dire que ce sont des faux mineurs. Et parfois, on les envoie au tribunal correctionnel, et il y en a plusieurs qui sont allés en prison directe, en prison avec des majeurs, qui ont été condamnés à des mois de prison et à des interdictions du territoire français. Donc ça, c'est complètement inadmissible, et malheureusement, ça enferme ces jeunes dans un cycle infernal, parce qu'après, c'est très très long de revenir sur ces condamnations ou sur ces obligations à quitter le territoire. Voilà. Donc on est dans une situation très contradictoire sur les routes. D'une part, c'est bien parce qu'ils sont tous mis à l'abri, donc ça c'est positif. Il y a pas mal de contrats jeunes majeurs, donc ça aussi c'est ce qui permet aux jeunes de continuer à faire leurs études après la majorité. Donc ça aussi c'est positif, mais ce qui est très très négatif, c'est qu'il y en a plusieurs centaines qui sont abandonnées à elles-mêmes pendant des mois et des mois, et ça, c'est absolument inadmissible.
Merci Thierry Lersch pour avoir été présent avec nous et avoir partagé ces précieuses informations.
Merci à vous.
C'était un plaisir. Et sur ce, à bientôt, chers auditeurs et chères auditrices.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir.